Bonjour à tous. Je mets ça un peu plus loin. Ça va, vous avez profité de la semaine? Du beau soleil hier, la belle pluie ce matin, ça fait du bien. Alors, Jonathan nous a déjà un tout petit peu introduit dans la thématique de ce matin, en nous parlant du texte dans Matthieu. Parce que moi, depuis quelques semaines, je me pose cette question. On a eu beaucoup de messages ces derniers temps sur l'Église, sur comment ça fonctionne, sur des thématiques importantes. Hein. Mais au final, je me dis, comment vivre ça ensemble? Comment vivre l'Église ensemble? Qu'est-ce qui fait qu'on peut vivre bien tout ce qu'on a appris et mis ensemble? Alors, j'ai eu cette petite idée, c'est de revenir à l'essentiel. Alors, pour les non-francophones, voilà, c'est un petit jeu de mots, hein, mais ça m'est venu cette semaine, je me suis dit, revenir à l'essentiel. Qu'est-ce que c'est l'essentiel par rapport à la vie chrétienne? Et en définitive, Jonathan a effleuré un tout petit peu le sujet dans Matthieu, mais on retrouve cette même discussion, enfin, pas tout à fait similaire, avec un responsable de la loi, un spécialiste de la loi, dans Marc et dans Luc. Mais les trois fois, les textes sont un tout petit peu différents. Et on va plutôt s'arrêter sur celui de Marc ce matin. Dans Luc, il est assez connu parce qu'il il aboutit sur la parabole du bon samaritain. La discussion de ces chefs religieux qui demandent « Mais qu'est-ce que c'est le plus grand commandement ?» Et puis après, à la fin, il va demander « Mais qui est mon prochain ?» Et on a la parabole du bon samaritain. Alors, je vous propose de voir ce matin ces quelques versets dans Marc 12, les versets 28 à 43, et essayer de creuser un tout petit peu cette pensée qui nous est proposée là. À partir du verset 28 du chapitre 12. Un des spécialistes de la loi qui les avait entendus discuter vit que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens. Il s'approcha et lui demanda, « Quel est le premier de tous les commandements ?» Jésus répondit, « Voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur, et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ton âme, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. » Oups. Je ne suis pas très bien coordonné entre les trucs. Hein, mais voici le deuxième, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que ces deux-là. Le spécialiste de la loi lui dit, « Bien, maître, tu as dit avec vérité que Dieu est unique, qu'il n'y a pas d'autre que lui, et que l'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence, de toute son âme et de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même, c'est plus que tous les holocaustes et tous les sacrifices. » Voyant qu'il avait bien répondu, Jésus lui dit, « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. » Personne n'osa plus lui poser de questions. Cette discussion, elle a lieu avec ce spécialiste de la loi, juste après toute une série de discussions entre Jésus et des chefs religieux. Des chefs religieux qui lui posaient des questions pour essayer de piéger, pour lui tendre des pièges. Il y a l'histoire des Sadducéens qui demandent, il y a un homme qui a eu, une femme qui a eu 7 maris, lequel sera son mari dans le ciel? Il y a cette scène-là, puis d'autres encore. Et il y a ce chef religieux qui écoute, et voilà, ça fait réfléchir. Et comme j'ai dit tout à l'heure, il y a ce texte parallèle de Matthieu, mais dans Matthieu, le ton, il est beaucoup plus agressif. Quand on prend le texte de Matthieu, on voit que la question du religieux, elle est plus incisive. Là, on se rend compte qu'il y a une vraie recherche. Il y a une vraie volonté de se dire, Mais qu'est-ce qui est fondamental? Donc cet homme, il arrive avec une certaine sincérité et en se disant, mais ok, il y a 613 commandements dans la loi, quels sont les fondamentaux? Et en fait, ce n'est pas une idée nouvelle, ce n'est pas une question nouvelle. Depuis, j'ai envie de dire, depuis le début que la loi a été donnée au peuple d'Israël, cette question se pose. Et je vous partage juste une pensée d'un érudit juif qui dit ceci. 613 commandements furent donnés à Moïse, 365 négatifs correspondant au nombre de jours de l'année, 284 positifs correspondant au nombre des membres dans un homme. Puis David vint et les réduit à 11, voire le psaume 15. Puis vint Ésaïe et les réduisit à 6, Ésaïe 33, 15. Puis vint Michée, il les réduisit à 3, dans Michée 6, 8. Puis Ésaïe vint de nouveau, il les réduisit à 2, comme il est dit, observez la justice et pratiquez la droiture. Puis vint Amos, il les réduisit à 1, comme il est dit, cherchez-moi et vous vivrez. On peut dire encore, alors vint Habacuc, et les réduisit à 1, comme il est dit, le juste vivra par sa fidélité. On voit donc dans ce petit résumé que ce n'est pas une idée nouvelle de chercher quel est l'essentiel. Et donc notre chef religieux, spécialiste de la loi, vient voir Jésus dans un état d'esprit, j'ai envie de dire, de découverte. Il veut savoir qu'est-ce qui est vraiment juste, qu'est-ce qui est vraiment bon. Et Jésus lui donne cette réponse. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton intelligence. Alors, est-ce que c'est évident de faire cela ou c'est un vrai travail sur soi? Je ne sais jamais si je dois aller là ou là, mais en fait, c'est là. Moi et la technologie. Donc, Jésus, en fait, il cite un passage de l'Ancien Testament, de la loi, Deutéronome 6, les versets 4 et 5. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul Éternel, et tu aimeras l'Éternel ton Dieu. Il y a quelque chose d'assez incroyable dans ces commandements, parce qu'en définitive, si on prend le contexte dans lequel ils ont été donnés, c'était quelque chose d'unique, que Dieu demande d'être aimé. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu. C'est un truc incroyable. Si on reprend dans le contexte de l'époque, la plupart des dieux de l'époque, il fallait pas les aimer, il fallait les craindre, il fallait en avoir peur. Parce que c'était des dieux violents, c'était des dieux qui demandaient du sang. Le dieu Baal, on lui faisait des sacrifices d'enfants. Donc c'était vraiment à l'opposé total de ce qui pouvait être vécu au niveau religieux à l'époque. Ça, c'est déjà un premier contraste incroyable. Et puis le côté unique. Alors ça dans la traduction, ça se retranscrit pas très bien, mais en fait, si on prend l'original, au plus près du texte, ça serait plutôt « l'Éternel est un ». L'Éternel est un, unique. Par rapport aux autres dieux, justement, qui sont d'une part multiples, et même chez les différents adorateurs du dieu Baal, dans chaque ville, il y avait une statuette de Baal qui était adorée avec ses spécificités pour chaque ville. Donc on pouvait dire qu'il y avait un dieu Baal multiple. Là, c'est vraiment un retour aux sources. Comme aujourd'hui dans certaines religions, par exemple dans le catholicisme, où on va adorer Dieu, mais on va adorer plein d'autres choses à côté. Et puis, une autre chose qui va se passer quand Jésus dit ces versets, c'est probablement que dans la tête de ce chef religieux, il y a plein d'autres versets qui vont suivre. Est-ce que vous avez déjà entendu parler du schéma Israël ? Schéma Israël, ça veut dire « Oh, écoute Israël ». Et en fait, c'est la suite de ces versets, les versets suivants, après les versets 4 et 5, qui sont récités très régulièrement par les Juifs orthodoxes avant les cérémonies, pendant les cérémonies, après les cérémonies. Et on va les lire ensemble, ces quelques versets. Écoute, Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul Éternel. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Les commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les répéteras à tes enfants, tu en parleras quand tu seras chez toi, quand tu seras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les attacheras à la main, à tes mains en signe et ils seront comme une marque entre tes yeux. Tu les écriras sur les montants de la porte de ta maison et sur les portes de tes villes. Donc c'était vraiment un attachement à la loi de Dieu et à tous les commandements. Et aujourd'hui, ça nous donne ça. Hein, si vous allez dans une synagogue, eh bien, il y a ce qu'on appelle ces phylactères, hein, c'est ce qu'ils ont mis sur les mains, et puis il y a la petite boîte sur le front, l'attachée à son front. Donc ça a été vraiment pris très littéralement, ce texte. Et dans la petite boîte, il y a des passages du Deutéronome. Alors, voilà une compréhension très littérale de ces versets. Et en fait, on se rend compte qu'au fil du temps, ça veut plus, tu peux passer, merci. Au fil du temps, ben, le peuple d'Israël s'est attaché à tout ce qui suivait les versets 4 et 5, mais les versets 4 et 5, ils ont été un tout petit peu oubliés. En particulier le verset 5. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu, ça a été mis de côté au profit de tout le reste. Et de devenir vraiment scrupuleux avec le suivi de la loi. Donc on est passé de aime ton Dieu à au légalisme en fait. Et appliquer la loi à fond sans aimer Dieu, ben, c'est en perdre le sens. On perd le cœur même de la loi. Mais est-ce que nous, aujourd'hui, on fait mieux? Est-ce qu'on comprend vraiment ce que ça veut dire aimer Dieu de tout son cœur, de toute sa force, de toute son âme, de toute son intelligence? Être vraiment complètement dans cette réflexion de aimer Dieu. Pour le peuple d'Israël, il était invité à aimer Dieu. Pourquoi? Parce qu'il avait été sorti de l'esclavage d'Égypte. Après 400 ans d'esclavage, Dieu l'a sauvé de l'esclavage. Nous, ben c'est encore plus grand. On a été sauvés de nos péchés, sauvés de la mort éternelle. Et c'est une très très bonne raison d'aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force. Mais ce n'est pas évident. C'est un travail quotidien. Je pense qu'il y a, enfin, moi je parle pour moi en tout cas, j'ai vraiment besoin de réapprendre ça tous les jours. Réapprendre à aimer Dieu. Parce que dans mon quotidien, ben, je le laisse souvent de côté. C'est vraiment un travail à faire sur soi. C'est comme dans une vie de couple quelque part. Alors, désolé pour les célibataires, hein, mais ben, quand on tombe amoureux, c'est tout feu, tout flamme. Au début, on est à fond. Quand on est jeune chrétien, on est à fond. Et puis petit à petit, ben, on prend des habitudes. Mais en même temps, plus on va aimer son conjoint, plus on va apprendre à le connaître, plus on pourra anticiper, plus on pourra savoir ce qu'il aime ou ce qu'il n'aime pas. Et la vie de couple, eh ben, normalement, c'est, on tend à ça. Hein. Et l'idée, c'est un peu la même chose avec Dieu. Plus on va apprendre à connaître Dieu, plus on va l'aimer, plus on va creuser sa parole, plus on va avoir envie de s'attacher à lui, de faire des choses qui lui plaisent. Et pour les célibataires, ben, moi j'ai des amis qui sont, comme dit la parole, des fois on a des amis plus qui sont plus que des frères. On les connaît tellement bien. On a une amitié très forte et sincère avec. Et c'est quelque part la même type de relation. On sait ce que cet ami va aimer ou pas, et des fois, ben, on fait vraiment des gros efforts pour nos amis. dans un livre que, sur le mariage que j'ai lu il y a longtemps, l'auteur dit ceci, « Il faut chaque jour décider d'aimer son conjoint. » Je pense que c'est la même chose avec Dieu. Il faut chaque jour décider d'aimer Dieu. Parce que ce n'est pas une évidence, parce que notre nature pécheresse, elle est encore là, et ce n'est pas simple d'aimer Dieu tous les jours. En se levant le matin, il faut décider, « Ok, aujourd'hui, je veux aimer Dieu. » C'est bizarre comme phrase, hein, mais c'est pas mal. C'est pas mal de se dire ça en se levant le matin. Ça change l'état d'esprit de la journée. Le deuxième commandement qui nous est donné, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Pareil. Évidence ou travail sur soi. Évidence ou travail sur soi. Et là encore, j'ai de la peine avec cet engin ce matin. Là encore, c'est un verset de l'Ancien Testament qui est cité dans Lévitique 19-18, qui nous dit « Tu ne te vengeras pas et tu ne garderas pas de rancune contre les membres de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, je suis l'Éternel. » Jésus cite ce verset, mais qu'à moitié. Et c'est vrai que pour les Juifs de l'époque, quand ils entendent ce verset, ça correspond à aimer son prochain, c'est aimer les Israélites, en fait. Le prochain, c'est l'Israélite. C'est mon peuple. Et c'est probablement la raison de la question dont Luc, de ce chef religieux, il est dit que le chef religieux, voulant se justifier, demanda à Jésus « Qui est mon prochain ?» Et s'ensuit cette parabole du bon samaritain. Et c'est une question qui peut paraître tout à fait légitime pour quelqu'un qui est très attaché aux détails et à la loi. Mais c'est qui mon prochain ? Et souvent, je trouve qu'on passe un petit peu facilement par-dessus ce verset. Parce que ce verset, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a quand même deux parties. Ton prochain comme toi-même. Aimer son prochain comme soi-même. Comme soi-même. Est-ce que vous êtes déjà posé cette question ? Est-ce que je m'aime assez pour aimer les autres ? Moi, je me pose de temps en temps cette question. Sans entrer dans des grandes pensées philosophiques, mais alors un petit bout de témoignage personnel, pendant pas mal d'années, je me suis trouvé plutôt nul. Parce qu'à l'école, on me disait, de toute façon, t'es nul, tu ne sers à rien, tu n'arriveras jamais à rien. Le cancre de base. Le directeur même de l'école, il n'aimait pas trop les gens de petites familles ou de petits revenus. Et chaque fois qu'il me reprenait qu'il y avait un problème, c'était « mais t'es pas à la ferme ici, t'es pas derrière tes vaches ». C'était il y a longtemps, mais... Donc comment avoir une bonne image de soi quand on a ça ? Comment avoir une bonne image de soi quand on est oppressé au travail ? Comment avoir une bonne image de soi quand ça fait des mois et des mois qu'on cherche un travail et qu'on n'y arrive pas ? Quand à l'école, on subit, je ne sais plus en français comment on dit, mais bullying. Alors, on se fait rejeter à l'école. S'aimer soi-même quand on a des pressions extérieures. Ce n'est pas si simple. Se dire que, même si, des fois on comprend le concept, hein, Dieu m'aime comme je suis, il m'a fait comme je suis, concept, on l'a. Mais le vivre et y croire, c'est autre chose. Et parfois, dans mon miroir le matin, je me dis, t'es nul, tu ne sers à rien. Encore aujourd'hui. Mais tout simplement parce que des fois, je me dis, j'ai vraiment mal agi hier avec un tel ou un tel. J'ai mal agi avec mon épouse. J'ai eu telle mauvaise pensée ou telle mauvaise action. Et quand je me regarde, je me dis, franchement, s'aimer soi-même, c'est pas facile. Pourtant, on est vraiment invité à le faire, à avoir une meilleure image de soi. Je pense encore à Pierre. Imaginez l'état d'esprit de Pierre dans le chapitre 21 de Jean, quand Jésus lui demande « Pierre, m'aimes-tu ?» Il lui demande trois fois ça. Et peu de temps avant, qu'est-ce qu'il a fait, Pierre ? Par trois fois, il a dit « Non, non, je ne le connais pas. Non, Jésus, je ne connais pas. » Lui qui a renié Jésus, qui l'a abandonné, Jésus vient lui demander « Pierre, m'aimes-tu ? » Waouh ! Je ne sais pas ce qui se passait dans la tête de Pierre à ce moment-là, mais ça devait être... Pourtant, on est vraiment invité à s'aimer soi-même et à avoir de la reconnaissance à Dieu pour qui on est. Il y a un fameux passage, psaume 139, il est bien connu. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'a tissé dans le ventre de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables, je le reconnais bien. Mon corps n'était pas caché devant toi lorsque j'ai été fait dans le secret tissé, dans les profondeurs de la terre. Je n'étais encore qu'une masse informe, mais tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient inscrits tous les jours qui m'étaient destinés, avant qu'un seul d'entre eux n'existe. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Ça, c'est une des clés pour s'aimer soi-même. Apprendre à être reconnaissant à Dieu pour qui on est, pour ce qu'il a fait pour nous, pour tout ce qu'il nous a donné, notre parcours de vie, quel qu'il soit, difficile ou pas. Être reconnaissant à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous. Et s'il nous a voulu comme ça, c'est qu'il a une bonne raison. Des fois, moi, je ne comprends pas, mais... Mais quand même, c'est vraiment la volonté de Dieu. Et je pense que ce n'est pas naturel. Naturellement, on va plutôt dire merci Seigneur pour la belle voiture, pour le bon travail, pour plein de choses matérielles, en fait. Mais remercier Dieu pour qui on est, c'est plus rare. Et on a un magnifique exemple dans ce psaume, et je vous invite vraiment à y revenir de manière régulière. Et en s'aimant soi-même, on peut apprendre à aimer son prochain, parce qu'on sera un peu plus coulant. Si on connaît ses défauts, ses forces, ses faiblesses, on va aussi pouvoir être plus souple, plus aimable avec ceux qui ont des forces et des faiblesses à côté de nous, être plus conciliant, être plus ouvert à l'autre. Parce qu'on sait qu'on a, quand on se connaît soi-même, je pense qu'il y a aussi le fait qu'on ne craint pas la critique, on ne craint pas le regard de l'autre. Non, je sais qui je suis, devant Dieu, je sais comment Dieu m'a créé, comment Dieu m'a fait, et voilà, c'est moi. Alors bien sûr, on s'améliore. Mais du coup, on a moins la peur du regard de l'autre ou de la critique. Et du coup, on peut avoir des meilleures relations avec les autres. Enfin, je pense. Je ne suis pas psychologue, mais ça me paraît assez logique, cet enchaînement. Et les autres, c'est tout le monde. C'est dans l'église, c'est à l'extérieur de l'église. Et des fois, j'ai parfois l'impression qu'on est plus dur les uns avec les autres dans l'Église qu'avec l'extérieur. Parce qu'on est plus exigeant, parce qu'on a on met la barre plus haut. J'ai envie de dire, les païens, ils y peuvent rien. Ils croient pas en Dieu, c'est pas de sa faute, il peut pas. Mais toi, t'as intérêt à être à la hauteur. Et ça, c'est dans l'Église, et c'est dommage. Aimez-vous les uns les autres, il n'y a pas de distinction. C'est tout le monde. Et tout le monde au même niveau. Le spécialiste de la loi lui dit, bien maître, tu as dit avec vérité que Dieu est unique, qu'il n'y en a pas d'autre que lui, et que l'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence, de toute son âme et de toute sa force, aimer son prochain comme soi-même, c'est plus que tous les holocaustes et tous les sacrifices. On dirait que cet homme, il ne fait que répéter ce que Jésus a dit, mais la dernière phrase est extraordinaire. C'est plus que tous les holocaustes et tous les sacrifices. Pour quelqu'un qui est un spécialiste de la loi, dire ça, c'est une bombe, c'est un changement de paradigme total dans la réflexion. Depuis des siècles, le peuple juif met l'accent sur tout ce qui est office religieux, sur les sacrifices pour être agréé par Dieu. Les holocaustes, c'était quelque chose de super important pour le peuple juif. Et si vous relisez tout ce qui a été donné par rapport au tabernacle et tout ce qu'il fallait faire, hein, tous les sacrifices qu'il fallait faire pour être pardonné par Dieu, on voit l'importance que ça a dans la vie du peuple juif, et que cet homme, en un instant, en écoutant Jésus, cette simple parole, il arrive à dire ça, c'est quelque chose vraiment de... C'est une bombe. C'est un changement complet de vision de Dieu. Et en définitive, il comprend en un instant quel est le cœur même de la loi. Le cœur même de la loi, le plus important, aimer Dieu, aimer son prochain et s'aimer soi-même. C'est un changement incroyable. Et c'est vrai que nous, on encore une fois, dans notre contexte, ça paraît, c'est pas forcément simple à capter, parce que ça nous paraît une évidence. Mais c'est pas une évidence pour le peuple juif à l'époque, toujours pas aujourd'hui. Et je suis pas sûr que ça soit si évident que cela, ces versets, pour nous aujourd'hui. Qu'est-ce qui remplace l'amour de Dieu dans notre Église ou dans notre vie chrétienne? Par quoi on remplace? Par des belles prédications? Par des super louanges? Par une manière bien précise de faire les choses, par des belles traditions. On a tous des traditions, hein. Ça, on ne peut pas y échapper, l'humain est comme ça. Mais dans toutes les églises, il y a des traditions. Mais est-ce que ces traditions prennent le dessus par rapport à l'amour qui est dû à Dieu? Est-ce que nos traditions deviennent plus importantes que aimer Dieu? Comme pour les Juifs, pratiquer la loi dans le détail, c'était plus important au final qu'aimer Dieu. Mais on est aussi dans ce danger-là aujourd'hui, nous. Faire des bonnes actions, être des bons chrétiens, devient plus important que l'essentiel, aimer Dieu. Revenir à l'essentiel. Revenir aux bases. Je pense qu'on a vraiment besoin régulièrement pour vivre ensemble. Et ces versets, je pense qu'ils répondent en partie à ma question du début. Comment bien vivre l'Église ensemble? En apprenant à aimer Dieu, à aimer son prochain, à s'aimer soi-même. Et si ces trois choses-là, on les vit petit à petit, régulièrement, alors nos relations dans l'Église vont changer. Alors notre vie d'Église va changer. Parce que si on a tous cette même bienveillance les uns envers les autres, forcément ça ne peut que aller bien. Alors bien sûr, il y a toujours des hauts et des bas, on n'est jamais au top, on n'est pas obligé d'atteindre la perfection tout de suite. Mais vraiment, pour moi, ça m'a travaillé toute cette semaine. Dire, voilà, ces deux commandements sont vraiment super importants pour le bien vivre ensemble dans l'Église. Mais pas seulement dans l'Église, dans votre travail, avec vos amis, avec vos familles. Partout, ça fonctionne. Simple chose, entre guillemets. Et ces trois choses à retenir faciles, aimer Dieu, aimer son prochain, s'aimer soi-même avec reconnaissance pour Dieu. Alors, est-ce qu'on est prêt à relever ce défi en tant que frère et sœur, en tant qu'Église? Moi, c'est le petit défi que j'aimerais vous lancer pour ces prochaines semaines. Apprenons à nous connaître, apprenons à passer du temps ensemble, apprenons à nous aimer les uns les autres pour qui nous sommes. Regardez un frère qui a des compétences musicales, non avec jalousie, mais en disant « Merci Seigneur pour ce frère, merci pour ses compétences, merci parce que tu l'as qualifié, merci pour les dons que tu nous donnes dans cette Église, les dons que tu m'as donnés que je peux partager avec les autres. » Est-ce qu'on est prêt à relever ce défi ?